L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Nous ne pouvions pas, alors que vient de s'ouvrir l'année jubilaire du 150e anniversaire de l'apparition de Pontmain, ne pas consacrer une émission à celui qui en a été curé de 1836 à 1872, hein, l'abbé Michel Guérin. Et nous ne pouvions pas parler de l'abbé Michel Guérin sans faire appel à la postulatrice de sa cause en béatification, celui qui était donc surnommé à l'époque le curé aux bonnes vierges. Anne Bernet, bonjour.
Bonjour.
C'est l'abbé Michel Guérin qui a insisté pour être responsable de ce qui ne deviendrait une paroisse qu'en 1840 et qui n'était alors qu'un petit hameau et avec une église en piteux état.
Un village abandonné qui, depuis la Révolution, n'était plus paroisse. Depuis la mort du vicaire de Saint-Hélier qui avait tenté, bon an mal an, de maintenir une présence religieuse, Pontmain est totalement livré à lui-même. Nous sommes à 6 km 500, préciserait l'abbé Guérin, à l'époque par les routes épouvantables de la Mayenne. Cela représente un véritable voyage infaisable, donc les gens peu à peu se découragent, les enfants ne sont plus scolarisés puisque l'école est à Saint-Hélier, les gens ne vont plus à la messe. C'est tout juste si on peut encore enterrer les défunts, parce que emmener les corps jusqu'à Saint-Hélier, c'est une affaire. Et donc, peu à peu, ces gens profondément catholiques se détachent de la pratique. Ils en souffrent. Et lorsqu'en 1829, l'abbé Guérin arrive comme vicaire à Saint-Hélier, et qu'il se montre sensible à cette détresse des gens de Pontmain, eh bien, ceux-ci décident de lui demander de devenir le curé de cette paroisse qui n'existe plus. Ce qui s'avère extrêmement difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes sous le régime concordataire, que par conséquent, pour ériger une paroisse, il faut en passer par le ministère des cultes, que les demandes sont nombreuses et que les chances d'aboutir sont extrêmement faibles. Et d'autre part parce que l'évêque du Mans, puisque Laval est encore attaché au Mans à l'époque, l'évêque du Mans, Monseigneur Bouvier, qui a été le professeur de l'abbé Guérin au séminaire, qu'il aime beaucoup, ne va pas vouloir l'envoyer, pour employer ses propres termes, mourir de misère dans un village où l'on ne trouverait même pas 300 francs, le salaire minimal d'un vicaire, pour vous nourrir. Mais il a compté sans l'incroyable obstination mayonnaise de l'abbé Guérin.
On a aussi beaucoup vanté le dynamisme de l'abbé Michel Guérin pour développer le village, alors au niveau civil, développer une école, des commerces. Mais en ce qui nous concerne, c'est donc surtout la dévotion à Marie qu'il a voulu développer.
L'abbé Guérin est un prêtre social, comme vous le rappeliez à l'instant, mais c'est aussi un prêtre marial. Cette dévotion mariale va lui permettre de relever ce bourg où la pratique religieuse s'est effondrée. Il va s'appuyer sur ce qui a subsisté de la dévotion, c'est-à-dire le chapelet, pour ramener les gens à la pratique religieuse. Et cela va très bien fonctionner. Vous le disiez qu'on l'appelait le curé aux bonnes vierges. Il va en effet consacrer non seulement sa paroisse, mais chaque foyer à la Sainte Vierge. Il va mettre ses pauvres économies dans l'achat d'un certain nombre de statues. Cela représente un investissement important pour un prêtre pauvre. Il va acheter ses vierges en faïence, en terre cuite peinte, qu'il va offrir à chaque famille, dont certaines les possèdent encore. D'ailleurs, on en voit une au presbytère de l'abbé Guérin. Et il va demander aux gens de se tourner vers Marie. Il va également consacrer sa paroisse à la Sainte Vierge, l'affilier à la confrérie Notre-Dame des Victoires, qui s'est créée en 1836, et peu à peu, en effet, cela va porter des fruits de grâce qui vont ramener les âmes à la pratique religieuse. Les gens vont retourner à la messe, ils vont recommencer à se confesser, ils vont recommencer à communier. Et dans quelques années, assez rapidement d'ailleurs, la fête Dieu de Pontmain, le sacre comme on dit alors en Mayenne, sera l'une des plus belles de la région qui attirera dans ce village minuscule jusqu'à plus de 5000 personnes.
Il ira même jusqu'à confier les soldats partis à la guerre, il les confiera à la miséricorde de Marie dont il ne doutait pas. Et puis on passe assez rapidement, au soir du 17 janvier, Marie apparaît dans le ciel de ce petit village du nord de la Mayenne.
Cette intervention céleste vient à un moment de crise, la guerre bien entendu, l'invasion. Nous venons de perdre la bataille du Mans le 11 janvier, les troupes prussiennes se rapprochent, Laval est assiégée. Mais surtout, l'on est sans nouvelles à Pontmain des 38 garçons du bourg dont vous parliez à l'instant, que l'abbé Guérin avait poussé à se consacrer à Marie, et les gens sont malades d'inquiétude. Le 15 janvier, qui est un dimanche, au vêpres, l'abbé Guérin a voulu, comme il le fait d'habitude, allumer les quatre cierges qui entourent la statue de l'Immaculée Conception. Et quelqu'un dans la nef a crié « N'allumez pas, monsieur le curé, ça ne sert à rien de prier, Dieu ne nous écoute plus ». Pour l'abbé Guérin, c'est une douleur affreuse, un crève-cœur. Il a l'impression que ces longues années de ministère, parce que 36 ans de ministère à Pomain n'ont quasiment servi à rien, que les gens n'ont rien compris. Il se retire désolé. Et l'apparition du 17 janvier survient dans ce contexte de déréliction des âmes et elle est la réponse justement à ce cri du peuple « Cela ne sert à rien de prier ». Par quoi commence le message « Mais priez mes enfants ». C'est donc une réponse immédiate et l'abbé Guérin, lui, va certainement très bien le comprendre.
Est-ce que c'est cette apparition ou est-ce que c'est l'attitude de l'abbé Guérin tout au long de ses années de ministère qui a conduit à ouvrir un procès pour sa béatification ?
Il est bien évident que l'abbé Guérin jouit d'une réputation de sainteté qui est bien ancrée à Pomain même. On en a toujours considéré encore de son vivant les derniers mois de sa vie que cette bénédiction de l'apparition était intimement liée à la présence de ce prêtre marial. Personne n'en a jamais douté. Il y a eu des difficultés après la mort de l'abbé Guérin, liées à la personnalité de son évêque, Monseigneur Vicard, liées ensuite aux grandes difficultés traversées par le diocèse de Laval, puis par la guerre de 14. De fait, on n'a pas eu véritablement le temps, alors qu'il fallait déjà obtenir la reconnaissance romaine de l'apparition, après la reconnaissance diocésaine, on n'a pas eu le temps de s'occuper de l'abbé Guérin, qui d'ailleurs, pour beaucoup, apparaissait comme un prêtre de campagne, certainement exemplaire, mais comme on l'a dit dans le bulletin diocésain à sa mort, l'un de ces bons prêtres, comme notre diocèse, en compte tellement. Or, quand on se penche de plus près sur sa personnalité, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Jusqu'au 17 janvier 71, absolument rien d'extravagant ni d'extraordinaire dans la vie du curé de Pomain. Mais il y a cette vie qui est entièrement donnée, entièrement dévouée, cette vie de prêtre modèle. Pendant des années, au début de mon rôle de postulateur, je me suis dit « mais je commence à connaître de mieux en mieux l'abbé Guérin, mais c'est très agaçant, je ne connais pas Michel Guérin ». Jusqu'au moment où je me suis rendu à l'évidence, je ne pouvais pas connaître Michel Guérin parce que Michel Guérin avait en quelque sorte disparu le 19 juillet 1829, le jour de son ordination, où en effet le prêtre a totalement supplanté l'homme. Et l'abbé Guérin est entièrement donné à son ministère, il le sera toute sa vie. C'est en cela que, sans aucun charisme extraordinaire, il est remarquable. Je suis très frappé de voir le nombre de prêtres, de séminaristes, parfois d'évêques ou de cardinaux, qui me disent qu'ils se retrouvent dans cette figure de l'abbé Guérin parce que, à la différence du curé d'Ars, je pense qu'on s'aperçoit très vite qu'on ne sera jamais le curé d'Ars, n'est-ce pas ? Alors que l'abbé Guérin est imitable. Et c'est très touchant de voir en effet qu'un très grand nombre de prêtres se retrouvent en lui et beaucoup de fidèles sont touchés eux aussi. C'est un homme bon, doux, tendre, l'abbé Guérin, mais c'est aussi un prêtre ferme. Avec les vérités de la foi et du salut, il ne plaisante jamais.
Donc ce procès en béatification a été ouvert en 2013. Où en est-on aujourd'hui ? Ça avance ?
Ça avance bien puisque nous n'allons pas tarder à clôturer le dossier. Il y a quelques nécessités administratives à régler. Une fois que cela sera réglé, eh bien, nous allons passer par la commission médicale qui travaille puisque nous avons 5 dossiers de guérison médicalement inexpliquée qui sont d'ailleurs pour certaines absolument sidérantes. Alors quand le dossier, la positio sera partie pour Rome, nous sommes tout de même très optimistes. Je ne crois pas beaucoup m'avancer en disant que nous pouvons espérer une reconnaissance des vertus héroïques de l'abbé Guérin dans des délais, je n'ose pas dire relativement courts, parce que le temps de Rome n'est pas le nôtre. Mais nous avons bon espoir et qu'en raison des guérisons inexpliquées dont je vous parlais à l'instant, nous pouvons espérer une béatification relativement rapide.
C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans ?
Je suis incapable de vous répondre.
J'imagine bien que tout est sous le couvert du secret. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces miracles ?
Nous avons 2 guérisons de cancer extrêmement graves. Nous avons un jeune homme qui a fait une tentative de suicide et qui normalement ne devrait plus être parmi nous parce que quand on saute du 7e étage, généralement on ne se rate pas. Et qui, malgré des blessures absolument cataclysmiques, personne ne peut survivre dans ces conditions-là. Ce garçon va très bien. Il n'a aucune séquelle. Nous avons un autre garçon, beaucoup plus jeune, qui est tombé accidentellement par une fenêtre pendant le premier confinement du mois de mars, très gravement blessé, qui va très bien lui aussi. Et nous avons une jeune femme qui ne devrait plus être parmi nous, qui aurait dû perdre également son bébé, qui est là aussi, et son enfant aussi. Si j'avais la liberté d'entrer dans le détail, je pense que tout le monde serait extrêmement touchée, voire sidérée par ce qu'est capable de faire l'abbé Guérin, mais vous me pardonnerez d'être tenue par le secret de l'instruction.
Bien sûr, mais dès que votre parole pourra être libérée, vous reviendrez vers nous, Anne Bernet. Ce que je peux juste conseiller peut-être à nos auditeurs, c'est de se rendre sur le site dédié au procès en béatification de l'abbé Guérin, extrêmement bien documenté, autant sur l'histoire, sur l'apparition, sur le contexte, et puis sur tout le déroulement d'un procès en béatification, toutes les étapes qui sont un petit peu longues, hein, puisque par exemple, on vient d'annoncer la canonisation du père Charles de Foucault qui aura lieu à la Pentecôte, et ça faisait 90 années et plus, je crois, que le procès avait été ouvert. Donc,
Je peux également annoncer à nos auditeurs la prochaine parution, bon, avec toutes les histoires actuelles, je ne peux pas donner de date exacte, mais ça ne saurait plus tarder très longtemps, de la grande biographie de l'abbé Guérin.
Merci beaucoup, Anne Bernet.
Merci à vous.